Vous êtes sur le point de suivre Lève-toi et brille, un message du club Jésus pour réussir, enregistré lors du culte d'adoration, de louange et d'enseignement hebdomadaire qui y est donné tous les dimanches à 19h. Le club est situé à Sainte-Rita, au-dessus de Alibert, au bord des pavés de Sainte-Rita, à 3 rues de la station MRS en direction de Fifadji. Nous sommes joignables par téléphone au 94 97 07 07 ou au 96 98 36 36. Vous êtes donc les bienvenus au culte de ce soir à 19h qui est d'entrée libre et totalement gratuite. Soyez bénis.
Alléluia.
Amen.
Comme je l'ai annoncé, le message d'aujourd'hui est très important. Je l'ai reçu dimanche dernier, un peu avant de monter en chair pour le message de dimanche dernier. Vous savez, le Seigneur est très très merveilleux pour nous ici. Nous venons encore de Lomé, nous avons vu toute sa gloire là-bas. Et nous savons que le Seigneur a déroulé un grand et beau tapis d'œuvres que nous devons faire pour lui. Et ce n'est pas par ses œuvres que nous serons sauvés, mais c'est pour ses œuvres que nous avons été sauvés.
Et
tous les jours, je découvre un peu mieux l'immensité de la belle mais difficile tâche qui nous attend. Et tous les jours, le Seigneur me rappelle que nous ne sommes pas une église comme les autres. Personne n'est au centre de Jésus pour ici pour être un chrétien de dimanche. Personne ne peut recevoir tant que ça, rien que pour lui. Le Seigneur n'aime pas le gaspillage. Ce qui est ici dépasse de trop loin ce qu'il faut pour le bonheur d'un homme. Nous recevons gratuitement parce que le Seigneur attend de nous que nous donnions gratuitement. Et le Seigneur me rappelle tous les jours qu'il ne nous bénira que si nous sommes des bénédictions pour les autres. L'onction n'appartient jamais à celui qui l'a. L'onction appartient à ceux sur lesquels a été établi celui qui a l'onction. Nous sommes des vases d'honneur. Quand on met un liquide dans un vase, ce n'est pas pour que le vase le boive, aucun vase ne boit de l'eau. Un vase reçoit du liquide pour le transférer dans les verres des invités. Si quand on met un liquide dans un vase, il ne sert personne, il reste plein, personne ne le servira. À l'échelle de sa vie, il n'y aura pas beaucoup de liquide qui soit passé par lui. Le sang de Jésus pour réussir n'est pas une église pour des chrétiens paresseux. Si quelqu'un a juste envie d'aller entendre de quoi se réconforter, s'occuper lui-même, qu'il arrête de venir ici, il n'y a pas de place pour ça ici. Le Seigneur est en train de lever ici une armée. Une armée de commandos. Et tous les jours, je vois avec effroi la mission qui attend ces commandos. Je vois la foi là, l'immensité de la mission. Mais je vois aussi la puissance de l'équipement déjà reçu. Le Seigneur me fait souvent me rappeler de plein de circonstances où il nous a démontré que nous avons déjà comme Gédéon toute l'onction qu'il faut. En conséquence, il me fait avoir honte de ne pas en avoir fait plus que ça depuis. Il ne nous réunit pas ici pour ne parler qu'à nous. Il veut à partir de nous lancer un réveil dans ce pays, dans le monde. Si vous regardez bien ce qui se passe ici, le Seigneur est en train de concevoir ici la réponse de l'Église au problème actuel du monde. Sans vouloir juger personne, parce que le Seigneur donne à chacun selon sa grâce, personne n'a de mérite. Le monde aujourd'hui voit deux grands extrêmes. Il voit face au problème des gens qui côtoient avec amour Satan pour s'en sortir. Et brille quelque temps, ils ont l'impression de s'en sortir, mais leur fin montre qu'on finit toujours par payer le mépris au Seigneur. Et le monde voit à l'autre extrême des chrétiens crétins. Des gens vilains, des gens paresseux, des gens fainéants, des gens inintelligents, des gens qui méprisent la sagesse. Des gens qui parlent de Jésus en n'obéissant jamais à Jésus. Des gens qui parlent de l'amour en étant les plus méchants et les plus vicieux. Conclusion, l'homme, le minimalement intelligent, se dit que si c'est ça être chrétien, c'est pas la peine, il vaut mieux aller directement à Satan. Tout ce qui fait la puissance de la foi a été mis à la poubelle. L'amour est à la poubelle. La foi est à la poubelle. Le sang est à la poubelle. Le nom de Jésus est à la poubelle. Le Saint-Esprit est à la poubelle. Pour ne laisser place qu'à quelques bishops, prophètes des nations et autres agités qui parlent au nom de Jésus. C'est-à-dire que Satan a tellement décrédibilisé les chrétiens que l'homme intelligent ne croit pas que la solution soit en Jésus.
Et
fait vite fait de dire, si c'est ça Jésus, votre Jésus, ça ne m'intéresse pas. Ils ont raison. Le Seigneur veut lever une nouvelle génération de chrétiens. Des gens qui vivent la parole sans négociation. Des gens qui sont tout sauf des chrétiens, mais les plus intelligents. Des gens qui ne soient pas des mendiants, mais qui donnent au monde. Qui ne soient pas les gens les plus pauvres, mais ceux qui sont les plus riches. Le Seigneur veut lever ici la nouvelle génération de chrétiens que le monde attend de voir. Il n'y a personne qui est censé être ici par hasard. Dieu est en train de faire quelque chose ici. Si tu n'as pas la destinée pour être ici, tu vas partir. Vous savez, moi, je n'ai pas besoin de fidèles, hein. Et la foule des gens devant moi, ça ne change rien. Comme avec Gédéon, je préfère avoir 10 personnes qui veulent suivre le Seigneur qu'une foule de paresseux en Christ. Vous devez savoir que aucune autorité ne bénit des gens qui ne lui apportent rien. Quand vous prenez un président de la République, par exemple, il donne les grands moyens, les grands ministères, les grandes sociétés aux gens qui font beaucoup d'investissements dans la campagne électorale pour sa réélection.
Quand
un électeur paresseux vient du village, on lui donne 2 000 francs ou on lui donne un sac de riz au mieux.
Bon, Mais
quand quelqu'un est capable de mobiliser tout un département pour le chef de l'État, il lui donne le port, il lui donne la sauvegarde, puis il donne le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, il donne les moyens de tenir le département. C'est pareil pour le Seigneur. Le Seigneur équipe, bénit, arme, rend prospère ceux qui sont en campagne électorale permanente pour le ciel. Le Seigneur bénit ceux qui sont en train de rendre ministère, ceux qui sont en train de le représenter, ceux qui sont ses ambassadeurs vivants sur la terre. Si beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis, c'est parce qu'ils ne représentent rien, ils ne servent à rien pour Dieu. Dieu ne fait pas de gaspillage, il ne donne pas des moyens à des gens pour montrer qu'ils sont riches, il leur donne des moyens pour faire quelque chose. C'est pour ça que quand il donne la vision, il donne les provisions. Si tu n'as pas de vision de Dieu, tu n'as pas besoin des provisions de Dieu.
Et
vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez pour vous, pour vos passions. Dieu ne veut pas donner à quelqu'un pour lui.
Quand on donne 100
milliards au ministre de la Santé, c'est pas parce qu'on veut qu'il bouffe 100 milliards, c'est parce qu'on n'a pas le choix que de lui donner parce qu'il s'occupe de la santé des Béninois. Si vous êtes un vrai chrétien, vous devez passer votre vie à servir les autres. C'est pour ça que Dieu vous donne les moyens. Et ne me dites pas comme beaucoup d'hypocrites que le jour où vous serez riche, vous le ferez. C'est le plus grand mensonge, la plus grosse hypocrisie des chrétiens, ça. Quand je vais être puissant, quand je vais être retraité, je vais servir le Seigneur. Il faut vivre jusque là, oui. Moi, je ne suis pas prophète pour servir Dieu. Dieu dit que fidèle dans les petites choses, lui confiera. S'il y a un enfant malade à côté de toi, tu n'es même pas fichu de lui imposer la main pour le guérir. Tu viens dire que tu veux de l'onction. Dieu va donner l'onction pour faire quoi? Pour te vanter? Tu crois que quelqu'un qui est découragé, tu ne veux même pas prendre 5 minutes pour l'édifier, tu dis que tu es chrétien. Hein? Quel genre de chrétien tu es pour mépriser la souffrance des autres? Tu as 10 000, tu ne peux pas donner 1 000 francs à quelqu'un qui va mourir. Et tu as le culot de dire que si tu étais milliardaire, tu donnerais des millions pour son
dossier.
Dieu sait que si tu ne peux pas donner 1 000 francs, tu ne pourras jamais donner 1 million, même si tu es milliardaire. Allez voir dans nos campagnes, les pauvres sont beaucoup plus généreux que nous. Quand tu viens, son dernier repas, il le partage avec toi sans se demander ce qu'il mangera demain. Toi, quand ton frigidaire est plein, tu n'as même pas le courage de donner à manger à quelqu'un. Tu devrais avoir honte si tu es chrétien. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est que pour le chrétien, ce n'est pas une option que l'amour. C'est obligatoire, non négociable, d'abord pour vous. J'ai toujours demandé à Dieu, je comprends que l'amour est important, je comprenais superficiellement et j'y obéissais, mais je sentais que Dieu parle trop de l'amour pour ce que j'ai compris de l'amour. Dieu va jusqu'à dire que si quelqu'un même meurt en martyr, il se donne au feu pour le Seigneur et il n'aime pas les autres, il n'est rien. Je dis ça là, l'amour dont il parle, je n'ai pas encore bien compris.
Le Seigneur
dit que nous sommes un même corps, le corps de Christ. Et que l'amour doit être dans le corps. Et que s'il n'y a pas d'amour parmi nous, nous ne pouvons pas être bénis. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi j'ai besoin d'aimer les autres et de m'occuper des autres pour que moi je sois béni? Dieu a-t-il besoin de ma relation avec les autres pour me bénir? Le salut est personnel, non, ma relation avec vous est le problème des autres. Comme Dieu par ce centre est en train de créer un réveil qu'il n'y a pas de réveil sans l'amour, Dieu a eu pitié de moi, m'a expliqué. Nous allons aller dans Éphésiens
4.
Je lis rapidement. Voici ce que je vous demande avec force. C'est Paul qui parle, moi qui suis prisonnier dans le Seigneur. J'espère que vous avez déjà compris que vous êtes prisonnier dans le Seigneur si vous êtes un vrai chrétien. Le chrétien n'est pas celui qui vient visiter Dieu de temps en temps, il est prisonnier de Dieu. Paul dit de la part du Seigneur, vivez en accord avec l'appel que vous avez reçu de lui. Soyez simple. Doux et patient. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Cherchez toujours à rester unis par l'Esprit Saint. C'est lui qui vous unit en faisant la paix entre vous. Il y a un seul corps. Et un seul Esprit Saint. Dieu vous a appelé aussi à une seule espérance. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous. Il agit par tous. Écoutez bien. Il agit par tous. Il habite en tous. Écoutez bien. Il agit par tous. Il habite en tous. Dieu nous a donné ses bienfaits. Mais le Christ a mesuré à chacun sa part. On s'arrête là d'abord. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Il dit, vivez en accord avec l'appel que vous avez reçu de lui. La Bible nous dit par ailleurs que nous étions connus avant d'entrer dans le vent de notre mère. Que Dieu nous avait déjà mis à part pour son œuvre. Et c'est ce que Dieu a mis à part qu'il a appelé. Et c'est ce qu'il a appelé qu'il a justifié. Et c'est ce qu'il a justifié qu'il a glorifié. Si tu as été justifié en donnant ta vie à Jésus, c'est que tu étais appelé. Dieu ne se fatigue pas à justifier des gens qu'il n'a pas appelé. C'est parce que Dieu t'a appelé à faire quelque chose de grand qu'il s'est fatigué à partir te chercher pour te justifier. Et quand il t'a justifié, maintenant il t'a restauré, il t'a glorifié. C'est une erreur de croire qu'on est sauvé pour soi. Même si tu es sauvé, c'est que Dieu a un appel pour toi. Il t'appelle pour quelque chose de non négociable. Quand vous êtes appelé, le Seigneur dit qu'il vous a justifié et après vous glorifie. C'est-à-dire que vous n'allez pas atteindre la dernière étape qui est la glorification si vous n'avez pas répondu à votre appel.
Non,
la parole nous dit ici de vivre en accord. C'est-à-dire vivez selon le fait que vous êtes un appelé. Vivez selon votre appel. Vivez en fonction de votre appel. Et le Seigneur nous dit, soyez simple. Soyez simple. Est-ce que les chrétiens sont simples? Est-ce qu'on n'est pas trop frimeur? On n'est pas trop compliqué?
On
ne fait pas trop de folklore? Soyez simple. Quand vous avez peur, dites que vous avez peur. Soyez vrai. Il dit soyez simple, soyez doux. Est-ce que vous êtes doux? Vous êtes doux. Car le cœur d'un enfant que Dieu te donne de demeurer ainsi au nom de Jésus. Et que ceux qui sont déjà plus vieux aient ton cœur pour être doux. Quand vous êtes doux, on a envie d'être avec vous. Le miel est doux, on le recherche. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens que les gens recherchent. Les gens les fuient toujours. Beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation. Beaucoup de paroles vaines, beaucoup de mendicité. Les gens n'aiment pas beaucoup les chrétiens. Si les gens ne vous aiment pas, c'est que vous n'êtes pas doux. Si vous êtes doux, on vous rechercherait. Et soyez patient. Êtes-vous patient? La plupart d'entre nous sont comme avec les gars de Moïse. Il suffit que Moïse soit absent 40 jours pour vous fabriquer des veaux d'or. Si vous demandez quelque chose à Dieu, vous ne le savez pas immédiatement. Vous prenez un chemin, la franc-maçonnerie, des choses sataniques. Vous prenez des bagues magiques, des savons magiques. Vous écoutez des radios, vous allez chercher n'importe quoi. Êtes-vous patient pour attendre le Seigneur? Non, je réponds à votre place. La patience, c'est aussi le comportement qu'on a pendant qu'on attend. Êtes-vous joyeux quand vous attendez? Dans tous les cas, tout le monde attend quand Dieu veut qu'il attende. Mais la patience, c'est le comportement que vous avez pendant que vous attendez. Paul continue en disant, supportez-vous les uns les autres avec amour. Supportez-vous. Ça veut dire quand on a des problèmes de se supporter. Et même ça, le problème de se soutenir les uns les autres. Avec amour. Pas l'amour éros. Qui est bâti sur la beauté, sur le sexe, sur l'attirance. Pas l'amour philéo qui est bâti sur l'intérêt. Je l'aime parce que c'est un bon parti pour moi, c'est intéressant d'être son ami.
L'amour
ici, c'est l'amour agapao. L'amour par principe. L'amour que ça te plaise ou non. L'amour pour tes amis comme pour tes ennemis. L'amour qui traite tout le monde en obéissant à la parole de Dieu. L'amour qui pardonne. L'amour qui soutient. L'amour qui conseille. L'amour qui édifie. L'amour qui intercède pour. L'amour. Est-ce que vous sentez l'amour dans l'église? On a parfois des comportements pires que des comportements de vipères, de serpents. Des fois, vous voyez des choses passer à l'église, vous vous sentez plus en danger que dans le monde. Le Seigneur nous dit de chercher toujours à rester unis par l'Esprit Saint. C'est lui qui vous unit en faisant la paix entre vous. Il y a un seul corps, il y a un seul Esprit Saint. Et Dieu vous a appelé à une seule espérance. Une seule espérance, ça veut dire quoi? Le Seigneur me dit qu'une seule espérance, ça veut dire une seule espérance. Ça veut dire quoi? Que nous avons une seule espérance. C'est-à-dire que ce en quoi nous espérons est unique. Ce que nous attendons est unique. Cela veut dire quoi? Nos espérances ne sont pas différentes. Puisque nous sommes appelés à une seule espérance. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas espérer que Dieu te bénisse pendant qu'il laisse le pauvre. Quand vous êtes appelé à une seule espérance, où l'espérance arrive et ce que Dieu a prévu pour vous tous s'accomplit, où il n'y a pas d'espérance pour aucun de vous. Vous écarquillez les yeux, je vois des gens écarquiller les yeux. Ah oui, il faut comprendre la parole de Dieu. Une seule espérance. Vous ne pouvez pas être béni pendant que Dieu laisse les autres maudits autour de vous. Non. Si les autres souffrent, vous souffrirez. Si vous avez une seule espérance, s'il y avait deux espérances, tu peux avoir ton espérance et il va avoir la sienne.
Mais s'il y a une seule espérance, ce que tu n'as pas compris, tu méprises les autres. Ce que tu n'as pas compris, tu laisses les autres tomber sans les relever. Ce qui peut faire par terre que toi tu sois debout. Vous avez une seule espérance. L'église aujourd'hui n'est pas bénie parce que nous avons une seule espérance et que l'église laisse la plupart des gens dans une espérance malheureuse. Tout le monde est malheureux. Il n'est pas possible d'être heureux à l'intérieur d'un corps qui est malheureux. Il dit il y a un seul Seigneur, une seule foi. La foi, c'est la ferme assurance qu'on espère. Il y en a une seule. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Si c'est le Père de tous, si c'est le Dieu de tous, nous sommes des frères. Tu connais un seul Père qui va nourrir un de ses enfants en lui donnant plein de gâteaux, tout ça, et puis l'autre enfant dit de mourir de faim? Tu connais un père qui vient voir le grand frère avoir beaucoup mangé et puis les autres enfants n'ont pas mangé et puis il est content?
Mais
si nous avons un seul père, pourquoi toi tu crois que ce père là qui est comme par hasard Dieu va te bénir pendant que tu t'en fous du malheur des autres?
Il
dit ce père là il est au-dessus de tous.
Donc
il nous voit tous. Personne ne peut faire la comédie. Si tu pinces ton frère, il voit. Tu médites sur ton frère, il voit. Tu parles mal de ton frère, il voit. Il est au-dessus de tous. Si tu as un cœur de vipère qui travaille au malheur des autres, qui pourrait être tes enfants, Dieu te voit. Et pour nous aider à mieux comprendre, dire quelque chose. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Il agit par tous. Il habite en tous. Le Seigneur nous dit quelque part que comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu ne peux pas aimer ton frère que tu vois? Tu
ne
peux pas dire tu peux pas me dire que tu m'aimes et quand tu vois mon fils, tu le maltraites. Quel est cet amour-là que tu as pour moi quand tu vois mon fils, tu le maltraites? Quand tu vois un ami de ton père, dès que tu te présentes, il te traite très très bien parce que tu es le fils de son ami. Tu ne peux pas maltraiter, mépriser les enfants de Dieu et dire à Dieu que tu l'aimes, c'est du mensonge. Jésus, quand tu fais quelque chose pour un pauvre, pour un malheureux, pour un mendiant, pour un prisonnier, c'est pour moi que tu le fais. Tu peux voir la fille de ta meilleure copine au bord de la voie, sale, dans un accident, est partie alors que c'est ta meilleure copine.
Si
c'est vraiment ta meilleure copine, tu feras tout pour l'enfant comme c'était ton propre enfant avant de rencontrer ses parents. Tu
n'as
même pas appelé. Cela veut dire que le comportement que vous avez avec les enfants de Dieu révèle à Dieu quel est votre vrai cœur envers Dieu lui-même. Si tu es mon meilleur ami et tu as vu mon enfant en accident, tu as traversé, tu n'as rien dit, tu ne m'as même pas appelé pour le sauver. Et j'apprends après que c'est toi qui étais parti le premier. Je peux rester ami avec toi? Vous voulez que Dieu vous bénisse alors que tous les jours vous voyez ses enfants souffrir, ça ne vous dérange pas? Il dit il habite en tous par le Saint-Esprit. Christ est en chacun de nous. Quand tu vois quelqu'un agir, quand tu vois quelqu'un à côté de toi, au-delà de la chair que tu vois,
il
faut savoir que son esprit c'est Christ. Si tu ne l'aimes pas, un moment Christ qui est en lui. Si tu ne t'intéresses pas à lui, intéresse-toi moins à Christ qui est en lui. S'il y a un seul esprit et que cet esprit est en toi et que cet esprit est en lui, si tu le méprises, tu as méprisé l'esprit qui est en toi. Si tu as méprisé l'esprit qui est en toi, comment tu peux compter sur l'esprit qui est en toi? Tu dépends entièrement de l'esprit qui est en toi. Ta vie et ta mort dépend de lui. Et là où il est en souffrance, tu t'en fous. Et tu as le culot après l'avoir laissé souffrir dans un corps que tu as vu de dire viens me sauver moi ici. Si c'est toi tu vas sauver. Il dit il agit par tous. Quand on demande à Jésus quel est le plus important des commandements, il dit premièrement, aime Dieu plus que tout. Deuxièmement, il lit toujours les deux commandements. Aime ton prochain comme toi-même. Le prochain, c'est celui qui est à côté de toi.
Ce
n'est pas ton ami. C'est pas ton frère. C'est pas ton parent. C'est pas quelqu'un que tu aimes. C'est pour ça que Jésus a donné la parole du bon samaritain. Les samaritains et les juifs étaient ennemis. C'est des frères ennemis. Quand on a demandé à Jésus qui est son prochain, il a pris l'exemple où c'est l'ennemi du juif qui est venu le sauver. Le prochain, c'est celui que Dieu met proche de toi. Quand Dieu rentre quelqu'un dans ton rayon, tu es foutu, il est devenu ton prochain. Et dès qu'il devient ton prochain, Dieu dit qu'après avoir aimé Dieu, la chose qu'il attend de toi, c'est de l'aimer. Pourquoi? Parce que Dieu agit par tous et en tous. Quand tu pries, que tu demandes une bénédiction, Dieu va la produire. Mais quand il la produit, il faut quelqu'un pour te la livrer. Si tu commandes une pizza, le cuisinier fait la pizza. Mais si un livreur ne prend pas ça sur sa moto pour venir dans ta maison, tu ne vas jamais voir la pizza. Si tu appelles quelqu'un, moi j'ai déjà fini la pizza. Entends-toi avec le livreur. Dieu dit qu'il est assis sur le ciel. Le ciel est pour Dieu, la terre est pour les hommes. Et parce que Dieu est au ciel que la terre c'est pour les hommes, quand Dieu veut agir sur la terre, il active un béton. Il active un homme. Il envoie en mission un homme. Le problème, c'est quoi? Si tu n'aimes personne, si personne ne t'aime, personne n'acceptera la mission que Dieu lui donnera. Tu es dans ta chambre à coucher. Tu n'as rien à manger avec tes enfants. Tu dis, Seigneur, je crois en toi. Je te loue, tu es merveilleux. Tu dis que je ne peux pas manquer de nourriture. Je te fais confiance que quelque chose se passera. C'est sûr que je vais manger. Le Seigneur dit, c'est vrai. Elle m'a rappelé ma parole. Je lui dois manger. Je vais honorer ma parole. Il faut s'occuper de son prochain. Tu ne veux pas aller voir quelqu'un qui a un titingu pour te donner à manger quand tu as fait à 20h à Cotonou. Il va s'intéresser à quelqu'un qui est proche de toi. Il frappe au cœur de ta voisine. D'abord, il a fait rêver, prépare une mamie de riz pour 10 personnes alors qu'elle est seule dans sa chambre. Et maintenant, le Seigneur dit à son cœur, tu ne vas pas gaspiller une mamie de riz. Demain, ça sera pourri. C'est l'occasion de faire une bonne œuvre. Donne à manger à ta voisine. Celle dit, c'est une bonne idée. Mais cette femme-là, elle est trop impolie. Hein. Elle m'a toujours insulté. Hein. En plus, elle cherche tout dans mon mari. Non, je crois que je vais donner aux autres enfants de la concession, mais elle ne l'a jamais. Et tu la vois, elle passe d'appartement en appartement, elle donne à manger à tout le monde. Elle saute ta porte. Ce n'est pas que Dieu ne t'a pas exaucé. Hein? Tu as bloqué un distributeur. Dieu dit, c'est pas grave. Il met à cœur un de tes oncles qui est en train de venir du village. Il est en train d'amener des tubercules d'igname, de maïs et de mil. Le Seigneur lui met à cœur. Mais pas chez la soeur Estelle pour lui donner un peu de maïs. Ça va lui faire plaisir. Il dit, c'est une bonne idée. Mais madame Salom, non, je vais aller donner ça à Kokou, c'est mieux pour moi. 2-0. Quand le Seigneur va dire bon à une de tes copines du boulot, depuis là, toi, tu n'es jamais parti voir Estelle depuis qu'elle a accouché. Va lui faire un cadeau. Bon, comme c'est ta copine, elle t'aime bien. Elle dit à son mari, bon, nous allons aller rendre visite à Estelle pour lui faire un cadeau. D'ailleurs, cette copine-là, je n'en veux pas. Copine là, elle t'apprend de mauvaises choses. Tu ne mets pas pied chez Estelle. Et tu ne donnes pas un franc de mon argent à Estelle. Et c'est ça que tu vas voir comme copine, je te laisse. Et Dieu a dit, tu vas faire quoi? Tu vas descendre sur la tête pour Estelle? Estelle va mourir de faim ce soir-là. Pas parce que Dieu n'a pas honoré sa parole, mais parce que Dieu a voulu bénir Comme elle n'aime aucun prochain, il n'y a personne de proche pour délivrer la bénédiction. Et quand vous regardez vous-même la plupart de vos témoignages, vous verrez que quand le Seigneur veut bénir quelqu'un, il utilise toujours quelqu'un d'autre qui ne sait même pas ce qu'il est en train de faire.
Je ne
sais pas pourquoi, j'ai pensé à toi et j'étais inspiré à venir faire tel. Le Seigneur utilise toujours quelqu'un pour notre. Mais si vous n'aimez pas les autres et que personne ne vous aime, Dieu ne peut jamais vous bénir. C'est pour ça que quelqu'un qui n'a pas d'amour, quel que soit le niveau de foi qu'il a pour le Seigneur, il ne sera jamais béni. Jamais béni. Tant qu'il n'aimera pas son prochain, comme Dieu ne descendra jamais du ciel sur la terre pour lui, il ne sera jamais béni. Allons à 1 Corinthiens 13. Paul dit, je peux parler les langues des hommes et les langues des anges. Mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne. Une cymbale bruyante. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu. C'est-à-dire la prophétie. Je peux comprendre tous les mystères, posséder toute la connaissance. Je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes. Mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim. Je peux livrer mon corps au feu. Mais si je n'aime pas les autres, je n'y gagne rien. Et est-ce que vous comprenez ça? Je peux distribuer tous mes biens aux pauvres. Si je ne les aime pas, j'ai perdu mon temps. Il y a des gens qui font beaucoup de dons, mais Dieu voit leur cœur, ils ne donnent pas orgueil, et simplement pour posséder les autres, pas par amour. C'est eux qui financent l'église et dès qu'ils ont donné un million à l'église, ils deviennent président de l'église. C'est eux qui disent au pasteur ces messages. Le pasteur n'est plus conduit par le Saint-Esprit. Il y en a plein comme ça, des ratés dans l'église. Les pasteurs ne sont plus appelés conduits par le Saint-Esprit, ils sont appelés conduits par le comité. Parce qu'on peut les virer à tout moment, on peut toucher leur salaire à tout moment. Si vous êtes un pasteur comme ça, répentez-vous. Si les hommes vous dirigent, vous conduirez en enfer.
La
plupart des gens font des choses par orgueil et non pas par amour. Il vaut mieux ne pas pouvoir faire grand chose, faire tout ce qu'on peut par amour, que d'avoir des milliards de les dépenser juste pour avoir l'impression d'acheter, de posséder les autres. Le Seigneur dit que si vous n'aimez pas les autres, vous ne gagnerez rien à votre foi. Il dit l'amour est patient. L'amour rend service. Il n'est pas jaloux. Il y a beaucoup de jaloux parmi les chrétiens. Il faut avoir honte de la jalousie. L'amour ne se vante pas.
Ah,
vous savez, c'est moi qui ai acheté les chaises de l'église, hein? C'est moi qui donne le vin pour la Sainte Cène, hein? Le Seigneur dit que ceux qui font ça ont déjà leur récompense sur la terre. L'amour ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Le truc honteux, c'est le truc que toi-même. Même quand on n'en parle toi-même, tu baisses la tête, tu sais que c'est mauvais. Il y a beaucoup de chrétiens et de chrétiennes qui parlent des autres, mais ils ne sont pas capables de dire devant les autres ce qu'ils disent derrière les autres. Ça, c'est quelque chose de honteux. Il faut arrêter d'être hypocrite dans l'église. Si tu veux dire quelque chose sur quelqu'un, ça doit être vrai. Ensuite, ça doit être utile. Ne me dis rien sur quelqu'un qui ne sert à rien. Si tu me parles de quelqu'un, c'est parce que tu veux peut-être qu'on le reprenne pour le sauver. Ou peut-être parce que tu veux qu'on évite quelque chose de pire qu'il va faire.
Mais
mal parler de quelqu'un juste pour que je ne l'aime pas, la Bible dit malheur à celui qui crée la division entre les frères. Ne prends pas plaisir à colporter des choses qui vont dénigrer les autres. Et quand tu passes ton temps à me dire, Dieu dit que celui qui sépare les choses viles des choses saintes, il va utiliser sa bouche. Quand tu utilises ta bouche pour parler des gens, si Dieu les fait l'onction dans ta bouche, tout ce que tu dis de mauvais sur eux s'accomplirait. Pour éviter que tout le malheur que tu dis des autres s'accomplisse, Dieu déconnecte ta bouche de l'onction. Conclusion, quand toi-même tu veux prier, tu parles, rien ne se passe. Parce que ta bouche a tellement médit que Dieu l'a déconnecté pour que tes médisances ne deviennent pas réalité.
Ma copine,
tu as vu la dame là? Ferme-la. Arrête de me dire. Le pire, c'est que ce n'est pas la vie. Parfois, c'est des vieilles mamans qui me disent. Il y a un âge où il faut se repentir. Fermez votre bouche si vous ne pouvez pas dire des bénédictions sur la vie des gens. Quand vous parlez, ça doit être pour leur apporter du bonheur. Si quelqu'un fait mal, la Bible dit, va le voir. Dis-lui qu'il fait mal. S'il t'écoute, ferme-la maintenant. S'il ne t'écoute pas, va voir quelqu'un d'un peu plus grand que vous. Que la personne lui parle. Mais ne parle pas à toutes les personnes. Tu vois, tu sais, ferme-la. L'amour ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du mal. Celle-là, je ne lui parle pas. L'année dernière, là, elle m'avait lorgné un jour quand je rentrais à l'église. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. C'est vrai que la sœur l'a fait si, mais si tu vas voir sa vie, c'est le diable qui l'a eu. Prions pour elle. Ayons pitié d'elle. Soyez compatissants. L'amour excuse tout. L'amour croit que les gens, on dit l'amour croit tout. Vous devez croire que les gens sont capables de devenir meilleurs. La sœur là est voleuse aujourd'hui, mais c'est pas grave. Dieu va la toucher un jour. Vous allez la voir, c'est elle qui va être la meilleure, la plus grande servante de Dieu ici. L'amour doit croire pour sa sœur, doit croire pour son frère, doit espérer. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour ne disparaît jamais. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et demain tu ne l'aimes plus. Si demain tu n'aimes plus quelqu'un, c'est que tu avais l'amour filéo peut-être ou l'amour eros. Mais l'amour agapao ne peut pas disparaître. Tu peux ne pas fréquenter quelqu'un parce qu'il est tellement dangereux que tu es obligé de te tenir à distance. Ça arrive. Mais tu dois au moins l'aimer suffisamment pour intercéder pour lui à distance. Moi, quand je suis obligé pour des raisons logiques d'éviter quelqu'un, je m'assure que je l'aime toujours en priant beaucoup pour lui. Parce que si vous n'avez pas quelqu'un, vous ne pouvez pas vous mettre là à prier pour la personne. Et priez pas en disant que Dieu la frappe, hein. Priez pour que Dieu la touche.
Parce que
nous devons rappeler, comme le dit Paul, que nous ne devons pas combattre la chair et le sang, mais les esprits mauvais, les principautés, les autorités qui dans les lieux célestes les animent. Ceux qui sont méchants ne sont pas notre problème, ils sont que les marionnettes de Satan. C'est Satan notre adversaire.
Apostle Paul doit dire,
mi jirona fu awon awa mi to kun agbasa mi sin awa o awa mi to yin rojele awa fufu panta gbigbo mawe de wa tin o fi wiwe de ro pesan e te to me bora zozon e we le o e we mi na to awa.
Mais au-delà de tout cela est très important.
Le
Seigneur m'explique comment je dois et vous, nous devons comprendre quelque chose qu'il dit souvent, mais que moi je n'ai jamais compris en toute honnêteté. Nous sommes un même corps. On parle de l'Église comme le corps de Christ. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas une manière de parler. Pourquoi on compare l'Église au corps de Christ? Première chose, Christ est la tête. Et il est l'esprit de l'Église. Comme tout corps, c'est la tête qui commande. C'est la tête qui dirige. C'est la tête qui oriente. C'est la tête qui veut. C'est la tête qui coordonne tous les autres organes.
Et
pour ça, souvent, les gens vous diront que quand le cerveau meurt ou quand le cœur meurt, on peut dire qu'il est mort. Tant que le cerveau n'est pas mort, on ne peut pas dire qu'un homme est mort, même s'il ne bouge plus.
Parce
que le centre de commandement d'un homme, d'un corps, c'est la tête. Quand on dit que Christ est la tête et que nous sommes son corps, nous sommes donc différents membres du même corps de Christ. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire par exemple que nous pouvons paralyser
Christ.
Qu'est-ce qu'on appelle un hémiplégique? Le gars, il est conscient. Il réfléchit. Il a des envies. Mais quand il veut faire quelque chose, là où son corps lui obéissait, le corps n'obéit plus. Il veut lever la main. La main ne bouge plus. Il veut bouger le pied. Il ne sent plus le pied. Il veut bouger les yeux. Son visage ne bouge plus. Les gens qui sont dans cette tête-là préfèrent mourir que de vivre. Et autour d'eux, tout le monde préfère qu'ils meurent parce qu'ils deviennent un légume, un fardeau pour la société. Voyez-vous, c'est très frustrant pour une tête de continuer de vivre pendant que son corps ne bouge pas. Même si j'ai envie de te tuer, parce que tu es Satan, si ma main ne bouge plus, mes pieds ne bougent plus, je peux te tuer. Voilà le problème de l'Église. Christ est là.
Christ le
il veut. Il a la puissance.
Il
a les stratégies.
Il
a l'autorité.
Il
a la capacité. Mais quand il active un membre, le membre ne bouge pas. Le membre dit, je suis en train de manger. Je suis en train de dormir. Je suis fatigué.
Envoie
quelqu'un d'autre. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas évangéliste. Je cours derrière mes affaires. Nous sommes des membres lâches qui paralysent la tête de
Christ.
Imaginez comment doit se sentir Christ d'avoir tout ce pouvoir-là et de ne pas pouvoir faire grand-chose contre Satan à cause de vous. Le monde, quand tu dis à quelqu'un, est-ce que Satan vit comment Satan vit? Tu vois pas tout ce qui se passe dans le monde. Satan vit bel et bien parce qu'on voit les yeux de Satan. On voit bien que Satan existe. Parce que les membres du corps de Satan travaillent très bien. Mais comme les membres du corps de Christ ne travaillent pas, il faut faire beaucoup d'efforts pour se rappeler que Christ existe. Est-ce qu'on peut voir quelqu'un en train de marcher, de courir, de travailler, demander s'il est vivant? Mais quand quelqu'un est enfermé dans sa chambre sur son lit et que tu ne le vois jamais, tu peux dire, il y a un si les gens se demandent si Dieu est vivant, c'est parce que nous sommes enfermés dans nos chambres, paralysés sur un lit. Donc personne ne voit Dieu en circulation dans le monde. C'est à cause de vous qu'on ne voit pas Dieu en action. C'est à cause de vous que tous les gars que Dieu aurait pu sauver ne sont pas sauvés parce que vous êtes et nous sommes un corps paresseux. Tu es le pied de Christ. Il voit fourmi. Il dit d'écraser la fourmi. Tu dis fourmi va me piquer. Il y a des gens qui ont peur ou bien voir Cancola. Surtout les femmes, elles ont peur de mettre le pied sur Cancola. C'est comme ça que vous faites avec Christ. Il y a Cancola, vous ne mettez même pas le pied dessus, vous fuyez.
Il
Imagine que je veux tuer un cancrelat, mais mon pied a peur du cancrelat.
Le bandit a un cancrelat.
C'est pas que je ne peux pas tuer le cancrelat, mais mon pied a peur du cancrelat, commence à trembler.
Et là, il y a des questions, mais à force de dire que c'est dit.
C'est comme ça que nous sommes pour le corps de Christ. N'oubliez pas ça. Chaque fois que vous ne rendez pas ministère, chaque fois que vous manquez une occasion d'édifier, d'encourager, de fortifier, d'enseigner, vous n'avez pas besoin d'avoir fait école de pasteur. Les meilleurs hommes de Dieu du monde n'ont fait aucune école. Laissez-moi ces bêtises là de côté. Il y a des gens qui sont tellement ignorants qui pensent qu'il faut faire école biblique et faire des diplômes. Dieu n'a rien à cirer de vos diplômes. C'est le Saint-Esprit qui donne des diplômes aux gens en leur donnant des révélations. Au lieu de servir Dieu, vous dites, faut que j'aille faire cours à l'école biblique. Ouvre ta Bible, lis. Le Saint-Esprit qui l'a écrit va t'enseigner. Il a dit, oh, il nous enseignera toutes choses. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus, tu peux faire des miracles.
Dit,
voilà les signes qui accompagnent ceux qui auront cru, pas ceux qui sont devenus des pasteurs.
Alléluia.
Si quelqu'un te croise, il est malade, prie pour lui. Si ça ne marche pas, ça ne change rien. Mais prie pour lui par la foi et laisse partir. Ce n'est pas toi qui fais, c'est Jésus qui fait. Tu n'es qu'un interrupteur. Arrête de faire le malin. Tu vois quelqu'un qui a des soucis, il ne vend pas. Il s'est plaint. C'est pas la peine de te plaindre avec lui. Il ne faut pas le maudire. Moi, je n'ai rien. Mais au nom de Jésus, je déclare que tu vendras aujourd'hui. Au nom de Jésus, je déclare que Dieu t'ouvre les yeux. Ceux qui bloquent tes affaires, tu les verras. Tes affaires se décoinceront. Je ne suis rien. Mais ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et parce qu'il m'a dit que ce que je vais délier sur la terre sera délié dans le ciel. Ce que je vais lier sur la terre sera lié dans les cieux. Je déclare que tu es béni au nom de Jésus. Et tu t'en vas. Quand j'ai commencé à obliger mes collaborateurs à faire ça global, les bébés spirituels qui ont donné leur vie à Jésus il y a 2 mois sont en train de faire des miracles. Paul dit à Timothée que personne ne prie sa jeunesse. Vous voyez une petite fille comme ça, elle peut faire plus de miracles que vous. Je dis que le royaume des cieux appartient à ceux qui ont le cœur comme un enfant. Chacun de nous doit faire ce que Dieu dit que ceux qui ont cru peuvent faire. Imposer les mains malades, marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Tu vois un fou dans la rue, tu n'as pas besoin de l'arrêter. Tu t'approches de lui au nom de Jésus, comme Jésus l'a fait pour le fou de Gadara. Qui que vous soyez, libérez-le au nom de Jésus. Tu n'attends même pas de voir, tu continues ton chemin. Parce qu'il ne faut pas faire des miracles pour voir pour la gloire, juste par amour. Un enfant de Dieu est perdu, tu es un serviteur de Dieu. Christ est en toi. Pourquoi tu as peur d'échouer? C'est pas ton problème. C'est ton travail. C'est toi qui l'as créé. Pourquoi celui qui l'a créé va avoir moins de soucis pour lui que toi? Tu n'es pas la tête. Tu es un membre. Fais simplement ce que la tête a dit de faire. Et fous ton camp. Tu évangélises quelqu'un. Si donne sa vie à Jésus, tant mieux. Donne pas sa vie à Jésus. Continue. Tu as semé dans sa vie. Il y a des gens pour lesquels ça pousse le même jour. Pour d'autres, ça va prendre un certain temps. Mais ça va travailler en lui. Un jour, il entendra quelqu'un d'autre. Dis autre chose. Et donnera sa vie à Jésus. Les choses que tu lui as dit qu'il a refusées. Chaque fois qu'il aura des problèmes, tu vas lui rappeler ça. Tu vas dire, tu te rappelles ce qu'on t'a dit. Il tourne, il tourne. Ça ne sera peut-être pas dans ton église. En fous-toi de ton église. Tu ne dois pas rendre ministère pour avoir des gens dans ton église. Tu rends ministère pour la tête. Rends ministère. Continue ton chemin. Dieu va les bénir. Et tu vas avoir des témoignages. On va dire, tu guéris les gens. Mais attention, ne sois pas orgueilleux. Tu n'as guéri personne. Tu n'es personne. Toi et moi, nous sommes que des serviteurs. Toute la gloire à Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas de miracles. Parce qu'ils font des miracles pour leur gloire. Ils veulent montrer qu'ils sont des men of God. Des gens puissants. Des gens qui ont de l'onction. Pour qu'on leur donne l'argent. Tu n'as pas d'onction qui t'a été donnée. Rends ministère par amour. Et oublie ce que tu as fait. Quand c'est comme ça, tu n'as pas peur de rendre ministère. Si ça marche, c'est que Dieu a voulu que ça marche. Ça ne marche pas. C'est pas ton problème, c'est toi qui l'as créé. Pourquoi tu as peur d'échouer?
Il
y a un diplôme qu'on veut te donner. Tu as peur pour ton orgueil. Tu as peur de faire de rendre misère quand tu es orgueilleux. Tu as peur de ne pas pouvoir te vanter. On ne rend pas ministère pour se vanter. On rend ministère pour Dieu. Et si c'est pour Dieu? Si ça ne marche pas. Pourquoi tu as peur que ça ne marche pas? Ça t'enlève quoi? À part que tu ne pourras pas faire malin. Tu évangélises pour pouvoir dire j'ai amené 10 personnes au Seigneur. C'est pas toi qui amènes les gens au Seigneur. Personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si le Saint-Esprit ne l'a convaincu. Toi, tu n'es qu'un membre que la tête a utilisé. Quand je fais des mathématiques et j'écris bien, c'est pas ma main qui est forte. C'est ma tête qui est forte. Personne ne voit ma tête. C'est ma tête qui est forte. Il ne faut pas que la main raconte des bêtises. C'est ma tête qui est forte. Si tu voles la gloire de Dieu, il ne te donnera pas de gloire. Retourne toujours la gloire à celui qui a la puissance. Tu n'es qu'un serviteur. Quand Dieu t'utilise pour faire un miracle, quand la personne est impressionnée par toi, si tu fais oui, un faux orgueil là, oui, c'est pas grave, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Mais tu le laisses croire que c'est toi. La conséquence, c'est qu'il va croire qu'il faut être toi pour le faire. Et quand tu n'es pas là, il ne va pas être guéri. Parce qu'il aura d'autres problèmes après ton miracle. Mais ce cas, non, je n'ai rien d'extraordinaire. Le Seigneur a dit, j'ai appliqué. Si ça t'intéresse, viens, je vais t'apprendre ce que le Seigneur a dit. Et toi-même, tu feras tes propres miracles. Mais tu commenceras à en faire pour d'autres. C'est de ça que ce pays a besoin. C'est de ça que le monde a besoin. Des gens qui rendent ministère rien que par amour. Sachant qu'ils ne sont que des serviteurs. Quand vous avez cet état d'esprit, quand vous avez ce cœur, le Seigneur peut vous utiliser. Le Seigneur peut se glorifier et apporter le bonheur à ceux qui nous entourent. L'autre chose que nous devons comprendre quand on parle du corps de Christ, c'est que le corps, ça veut dire le corps. Regardez bien. Aucun corps ne peut être heureux quand des organes dedans ne sont pas heureux. Si là vous êtes par exemple, tous vos organes fonctionnent bien, mais que vous avez mal au ventre, c'est fini, vous êtes foutu. Tout votre corps va se coucher. Ce n'est pas le ventre qui va se coucher. Tout le corps va se coucher. Si tu as un problème de cœur, ce n'est pas ton cœur qu'on va mettre à l'hôpital. C'est tout le corps qui est à l'hôpital. Les oreilles qui n'avaient aucun problème vont à l'hôpital. La bouche qui mange trop va à l'hôpital. Tes yeux qui font de la convoitise vont à l'hôpital. Si tes yeux font la convoitise sur du porc et tu as mangé toi seul un demi-porc, ça veut dire que ton œil a péché. Mais pas le péché de ton œil. Il a convaincu ta main, d'abord ton pied, d'aller là où on prépare le porc.
Donc,
le péché de l'œil entraîne le pied à faire aussi un péché. Arrivé là-bas, quand vous êtes devenu à deux, ce n'est pas les yeux seulement qui sont partis là-bas. Hein. Ce n'est pas le pied seulement. Hein. À deux, c'est tout le corps qu'ils ont amené là-bas. Quand ils arrivent là-bas, la main, d'abord les fesses vont s'asseoir proprement. La main rentre dans la danse, prend le porc. Là où pour travers la mère fatiguée, quand il fait du manger du porc, la mère ne sera pas fatiguée, elle va manger en quantité industrielle. L'œsophage va les aider à envoyer ça dans le ventre. À ce moment-là, ils n'ont pas pitié de donner du travail au ventre, hein. Ils n'ont pas d'amour pour le ventre. Ils s'en foutent, ils sortent de leur plaisir. Ils envoient dans le ventre. Le ventre commence à se gonfler, commence à crier au secours, mais c'est pas grave, on en voit encore dessus. Parce qu'on n'a pas d'amour pour le ventre. Attends, on oublie qu'il y a le foie qui est là. Tout ce qui est dans le ventre là, lui va devoir suer pour le faire digérer. Le foie commence à souffrir là-bas parce qu'il faut quand même qu'il digère toutes ces pagailles que tu envoies à l'intérieur. Pendant que le foie commence à travailler comme ça, il pompe tellement l'énergie de tout le corps que tu commences à avoir sommeil. Tu es en baisse de tension. Ce n'est plus seulement la bouche ou les yeux qui sont en baisse de tension. Hein. Tout le corps est en baisse de tension. Tout ce que tu devais faire, tu le remets, tu te mets quelque part sur un arbre, tu commences à ronfler. Mais quand tu te réveilles, tu as les pieds qui ont gonflé. Tu as des urticaires partout. Tu as des indigestions. Tu as pris 3 kilos de trop. Tu as commencé à avoir une diarrhée, les fesses, l'anus va travailler forcé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand un seul organe, les yeux, ou bien le nez, et je sens une odeur de porc braisé là. Quand le nez commet l'erreur de faire le pas, tout sentir, vous allez vous coucher à l'hôpital, peut-être dans la tombe. Le problème, c'est que les chrétiens croient que chaque organe est séparé, qu'il peut faire ce qu'il veut et que ça ne change rien à tout le corps. Si l'évangéliste ne fait pas son travail, il n'y aura même pas des gens ici pour être sauvés. Si l'enseignant ne fait pas son travail, les gars sont là, ils ne vont pas recevoir de parole, ils sont des chrétiens crétins. Si le prophète au milieu de nous ne fait pas son travail, quelqu'un vient. Dieu a dit de lui dire que attention, demain ne va pas au bureau, on va te tuer. Le prophète est en train de dormir, il dit bonjour. Il se tait. Le gars va être tué parce qu'un membre du corps a été paresseux. Quand Dieu veut sauver un organe ou veut sauver le corps, il active toujours une série d'organes. Si par exemple tu as mal à la main, la main ne peut rien prendre pour être guéri. On va activer ta bouche, tu vas prendre un médicament, le ventre va travailler, ça va passer dans tes intestins, dans le sang, et le sang, le fameux sang de Jésus, va le faire circuler à travers tout le corps pour permettre que la main reçoive les nutriments qui vont permettre de guérir. Ce qui se passe, c'est quoi? Si nous sommes le même corps, avec un même esprit, qui est la tête, qui est Christ, quand Christ veut faire quelque chose, s'il veut guérir sa main, il doit activer la bouche, il doit activer le ventre, il doit activer les intestins, il doit activer les vaisseaux sanguins. Si tout ce monde l'adore, il fait comment pour sauver la main? C'est parce que chaque organe est paresseux que la tête n'arrive à sauver aucun organe. La seule manière pour Christ de faire en sorte que le corps se porte bien, et que quand le corps se porte bien, chaque organe se porte bien, c'est que chaque organe joue son rôle.
Dès
que dans votre corps, un seul organe joue mal son rôle, tout le corps est foutu.
Moi,
je me rappelle un moment, je connais des gens, quand ils se lèvent, ils ont du vertige, ils sont obligés de rester tout le temps couchés. Pendant des mois, ils ne pouvaient pas se tenir debout. Ils étaient tout le temps avec du vertige. Et toute la journée, n'arrive pas à se tenir debout. Quand on a fini par chercher, c'est parce qu'il y avait une oreille qui n'entendait pas bien. Et le docteur a expliqué que ce n'est pas l'équilibre du son au niveau des oreilles que le corps s'équilibre. Donc il suffit qu'une oreille soit un peu fatiguée et tout le corps est couché.
Et
sachez que les organes les plus visibles ne sont pas les plus utiles au corps. Si je te coupe la main, tu vas vivre. Je te crève les yeux, tu vas vivre. Je te coupe le nez, tu vas vivre. Tout ce qu'on voit là, si je coupe, tu n'auras rien. Mais si le cœur se repose une nuit, tu es mort. Si les poumons que tu ne verras jamais se posent deux minutes, tu es mort. Si l'anus se fatigue un peu et que tu attrapes les hémorroïdes, toi-même tu vas savoir qu'on ne le voit pas, mais il est important. Quand celui qui a l'air le plus méprisable, qui est l'anus, se repose, tu vois ce qui t'arrive. De même, qui que tu sois dans l'église, quelle que soit ta petitesse, Si tu ne fais pas ton boulot, tu paralyses tout le corps. Tu paralyses toute l'église. Et quand tu paralyses toute l'église, en conséquence, tu es paralysé. Quand le corps est couché, la nuit aussi est couchée. Vous avez parfois des positions comme la position du cœur, on ne vous voit pas. Par exemple, tu es en intercession, on ne te voit pas. Et tu es parfois frustré. Toi, tu ne viens pas sur l'autel. Toi, tu ne joues pas le chantre. Mais tu ne sais pas que le cœur invisible est plus important pour le corps que la bouche qui parle.
Mais là, ici, là.
Tous les organes ne peuvent pas faire la même chose, pas vouloir jouer les stars, tout ne peut pas parler, tout ne peut pas enseigner. Mais tout le monde a un rôle indispensable. Et dès que vous ne jouez pas votre rôle, vous créez des problèmes à tout le corps. Quand les autres ne jouent pas leur rôle, ils vous créent des problèmes. Et comme personne ne joue son rôle, nous sommes tous malheureux. Et il n'y a aucune possibilité que le foie se porte bien quand tous les autres organes font la pagaille. Si en Christ nous sommes le même corps, cela veut dire que nous avons tous les uns et les autres la responsabilité du bonheur de tous les autres. Si nous faisons ce que nous avons à faire, toute l'église, c'est ça, quand il y a un réveil, c'est quoi? Tout le monde est conduit par le Saint-Esprit, tout le monde fait ce qu'il faut et tout le monde est béni. Mais quand beaucoup de gens ne font pas ce qu'il y a à faire, tout le monde est maudit. Ma prière, c'est que le réveil qui a commencé au centre s'intensifie au nom de Jésus. Qu'il s'intensifie, qu'il se généralise. Et qu'il ne soit que les prémices du réveil au béni au nom de Jésus. Parce que nous avons prophétisé en début 2014 que cette année sera l'année de l'expansion du réveil au béni au nom de Jésus. Et Dieu commence à me montrer que c'est en train de venir. Mais cela ne sera possible que si nous nous levons tous comme des organes d'un corps. Et que quelle que soit notre petitesse, chacun joue son rôle. Que l'amour soit votre seule règle. Et que le Saint-Esprit qui est en chacun de nous nous y conduise. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen.
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 Club Jésus pour réussir et le Saint-Hérita si ha menton. Maintenant, nous avons sensé de nous de yon MRS ou à gossin le boko yon de FIFA di vele ya. Qui ha me a ton god ou à douci to ou kwe le yon. An amon singo dako de soa ou ti vele bo yon singo wewe de. Fine ou ye de. Et non zon le bo yon la ye ya. 94-97-07-07. Allo, allo, 96-98-36-36. Et kana tchèlou. Jésus n'est deux, Jésus n'est deux, Jésus n'est deux, Jésus n'est deux, Jésus n'est deux.